Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui nous allons parler de musique, nous allons faire un petit saut dans le temps, nous allons aller à l'époque vers le Moyen-Âge, après avec la musique baroque et après avec la musique de la Renaissance. Et aujourd'hui je ne serai pas tout seul, je suis avec Julien Morel qui sera notre guide touristique, qui sera notre guide musical pour cette émission. Bonjour à toi.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va bien, merci.
Sois le bienvenu sur les antennes de Radio Campus.
Merci.
Pour parler un petit peu de tout ça et de comment se passait la musique à l'époque. Et nous vous proposons tout de suite de partir en découverte avec la musique de Corinna Marti, que je n'arrive qui est dure à prononcer, qui s'appelle...
Je peux le dire, mit ganzem Willen wünsch ich dir.
Et partons tout de suite. D'écouter du coup une introduction comme a bien été dit Julien avant. Il faut savoir que du coup le Moyen-Âge c'est, ou en tout cas à l'époque c'est ce type de musique, et je voulais te demander du coup Julien, pour bien introduire, pour bien commencer, une première question du coup, comme à quoi ressemblait du coup la musique avant du coup au Moyen-Âge, et est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif aussi sur cette musique de Corinna Marti?
Oui, alors en fait, on ne peut pas parler d'une seule musique pour le Moyen-Âge, puisque au départ, du 4e au 9e siècle, c'est plutôt de la musique, beaucoup de musique de monodique, donc avec une seule voix, le chant grégorien, et des variantes. Et puis petit à petit, on passe à la polyphonie, avec plusieurs voix. Parfois des doublures d'instruments, et alors en ce qui concerne le... Il y a des instruments qui apparaissent aussi, qui existent d'ailleurs depuis longtemps, mais là, en ce qui concerne cette musique, on est au 14e siècle, non, 15e siècle. On a un manuscrit qui s'appelle le Lorhammer Liederbuch, le livre... de chant de l'or. C'est en allemand. Hein. Et tiré de ce manuscrit, qui n'est pas écrit en portée, comme on voit Kletzer, Kletfa de nos jours, avec parfois des lettres, un système un plus ancien. Et là, c'est interprété à l'orgue. Donc c'est un orgue gothique qui a été inauguré en 1497, apparemment. Voilà, orgue d'église, et Corinna Marti joue plusieurs instruments, dont ce, voilà, qu'on pourra peut-être écouter plus tard, plusieurs claviers.
Et en tout cas, c'est, en tout cas, comme on dit, oui, Corinna Marti, c'est, elle est très spécialisée dans la musique baroque, si j'ai pu le voir, en tout cas.
Alors, c'est, je pense que c'est même plus alors, le baroque, mais aussi tout ce qui est plus ancien, vraiment le Moyen-Âge et la Renaissance. Et elle est enseignante à la Scola Cantorum de Bâle, en Suisse, qui est une école supérieure spécialisée en musique ancienne, où j'ai moi-même étudié, en fait, niveau de l'orgue.
En tout cas, j'ai vu que, parce que j'ai quand même fait des recherches sur, sur Corinna Marti, et j'ai vu quand même qu'elle était aussi, comme tu as dit, Moyen-Âge et aussi ancien, et j'ai vu comme quoi elle faisait aussi de la musique médiévale, tout ça, elle était aussi bien spécialisée dedans. Du coup, on peut voir qu'elle a un très grand panel, en tout cas une large facette, ou en tout cas des compétences qui sont très grandes. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu sur du coup, la musique que nous venons d'écouter, qu'est-ce que, en termes de signification, si elle a, si elle a une valeur, ou en tout cas
Ce qu'elle signifie, en fait, c'est, je pense que c'est une chanson, en fait. Alors, je n'ai pas le texte. Le début de le titre, c'est avec de la vilaine, je crois que c'est vouloir, c'est la volonté, en fait. Donc, je te souhaite, ich wünsche ich dir, de la volonté, ou avec de la volonté, quelque chose comme ça. Je ne sais pas en dire tellement plus sur cette chanson. En fait, c'est tiré d'une... Oui, voilà, comme je le disais, c'est tiré d'un recueil, en fait. Ce recueil qui s'appelle le Lohammer Liederbuch. C'est un livre de chansons. Et c'est transcrit pour le clavier. Bien sûr, ça, au départ, ça doit être chanté, en fait.
D'accord. Merci, je veux dire. C'est très bien défini. Je veux dire, en tout cas, on peut totalement le voir dans tous les cas. On a aussi d'autres... on passera d'autres musiques, du coup, de Corinna Marti tout à l'heure pour montrer un peu comme quoi elle fait aussi d'autres choses. Et... en tout cas, la musique du Moyen-Âge, la musique d'avant, vous l'avez bien écoutée. En tout cas, on l'a bien définie, Julien l'a bien définie. Et aujourd'hui, en tout cas, bon, je reviens maintenant, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver, en tout cas, des musées ou en tout cas des expositions qui parlent de la musique du Moyen-Âge, que ce soit pas forcément à Grenoble, mais en France, est-ce qu'il y aurait des musées?
Alors, je connais le... Je pense à un musée en particulier, qui a été fermé quelques temps, mais je crois qu'il est rouvert. C'est le musée de Cluny à Paris, la Sorbonne. C'est un musée spécialisé sur le Moyen-Âge. Alors, ce n'est pas un musée spécialisé sur la musique du Moyen-Âge, mais on peut y entendre des concerts de musique du Moyen-Âge en lien avec la Sorbonne, des étudiants ou des concertistes invités. Et il y a de l'iconographie. Par exemple, il y a la tapisserie de la Dame à la Licorne, qui est une célèbre fresque, vraiment très très connue, qui se trouve dans le musée. Et dessus sont représentés notamment l'organetto, qui est un petit orgue portatif, avec un soufflet qui émet directement le vent dans les tuyaux de l'orgue. Voilà. On appelle ça maintenant organetto, à pas confondre avec un petit modèle d'accordéon. Voilà, qui s'appelle aussi organetto.
Et il était comme tu parles de l'organetto, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte, en tout cas, il était joué, en tout cas s'il y avait des instruments accompagnateurs, ou comment il jouait?
Alors je crois déjà que c'est un instrument qui est pas tellement pour jouer de la musique religieuse, mais plus la musique profane, des chansons, des transcriptions. J'ai en tête des musiques qui sont des organetos qui peuvent être joués avec de la cornemuse, par exemple. On voit des vidéos des gens qui ont fait ça en concert, avec des percussions éventuellement aussi, mais c'est un instrument qui peut se jouer tout seul également.
Il y a des du coup, tu connais des concerts, en tout cas, où il y a l'organetto dedans, parce que du coup tu le...
Eh bien, alors à Paris, justement au musée de Cluny, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois que c'est Christophe Deligne, qui est spécialisé dans la musique à l'organetto. Il en joue lui-même. Il y a un centre de musique médiévale à Paris. Donc, et notamment, ils se produisent dans le, voilà, à l'intérieur de ce musée, je pense. Mais peut-être en dehors aussi. Alors, il existe aussi à Montpellier un centre de musique du Moyen-Âge. On peut y prendre des cours d'organetto.
Et
c'est vivant.
Bon bah go aller à Montpellier, à Paris. Mais est-ce qu'à Grenoble, il y en a aussi des centres pour...
Alors non, à Grenoble, il n'y a pas de centre sur la musique ancienne. Alors il y a le Conservatoire de Grenoble, il y a un département de musique ancienne. Plutôt sur la musique baroque, donc à partir de 1600... Mais on peut y jouer des musiques plus anciennes occasionnellement, chez les flûtistes à bec, enfin sur certains projets, mais c'est quand même plus la musique à partir du baroque italien et français et jusqu'à Jean-Sébastien Bach, pour le département de musique ancienne, parce qu'après évidemment il y a tous les pianistes et tous les autres instruments qui jouent toute la musique jusqu'à aujourd'hui.
Oui, après,
voilà.
Mais
ce n'est plus notre sujet.
Ça, c'est plus. Après, ce serait trop large. Et tout à l'heure, tu as évoqué le mot manuscrit. Et je voulais savoir, du coup, aujourd'hui, comment, en tout cas à l'époque, quand il y avait les partitions, tout ça, comment on arrive à les retrouver aujourd'hui ? En tout cas, comment on arrive à les ressembler et pouvoir même les enseigner dans des conservatoires. Mmh. Comment on retrouve tout ça ?
Alors, oui, c'est intéressant cette question. Alors, ils ont été conservés dans certains lieux. En tout cas, à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, y a des manuscrits, par exemple, qui sont bien conservés. On trouve dans des universités anciennes, à Oxford, en Italie. Et parfois, ils sont sous forme de microfilms qu'on peut consulter comme ça, avec un appareil optique. Ils sont... Souvent, on peut demander une impression à la bibliothèque ou là où ça a été conservé, et on peut la faire parvenir en format PDF ou voilà, un format numérisé qu'on peut lire. Après, tout le monde ne peut pas lire ces manuscrits sans avoir eu de formation. Donc, moi, j'ai dans mon cursus de bachelor à la Schola Cantorum de Bâle, donc j'étais spécialisé en orgue sur la musique ancienne, Renaissance baroque, et j'ai eu des cours de notation ancienne pendant 2 ans. Donc, il fallait s'entraîner à transcrire en notes modernes la partition. Par exemple, il y a des notes carrées, des notes en forme de losange. Les durées sont différentes, il n'y a pas les altérations, donc les dièses et les bémols écrits pareil, beaucoup de choses différentes. Voilà. Donc il faut se former si on veut transcrire soi-même, mais on trouve des transcriptions modernes de certains manuscrits.
Et du coup, on parle de partition, on parle de bémol, tout ça, mais du coup, ça a été vraiment très différent, en tout cas, quand on regarde à l'époque jusqu'à maintenant. Et tu peux peut-être en dire plus dessus, parce que du coup, j'ai oublié de le mentionner avant, mais t'es professeur, du coup, professeur
oui.
Qui est spécialisé baroque et renaissance. Si,
Alors, en fait, disons que c'est plus large que ça, parce que. Enfin, j'enseigne aussi le piano, et l'orgue et le clavecin, donc Alors qu'on peut jouer de la musique jusqu'à aujourd'hui, en fait, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Au clavecin, c'est un peu moins grand, l'étendue. Mais donc, j'ai des compétences, mais je n'enseigne pas que ces musiques-là, bien sûr. Oui, quelle était ta question ? Donc sur les dièses et les bémols ?
Oui, si les partitions étaient... la différence entre les partitions d'avant et par rapport à maintenant, parce que du coup, tu nous as parlé de dièses et bémols qui étaient en moins, ou en tout cas, il y avait des cases en moins dans les partitions.
Alors, en fait, ça dépend de quelle époque on parle. Parce que si on repart avant le... Alors, c'est quoi ? C'est le 11e siècle. Si on part avant le 11e siècle, on n'a pas encore de notation aussi précise que ce qui s'est passé ensuite. En fait, on sait que c'est au 11e siècle que quelqu'un qui s'appelait Guido d'Arezzo, un Italien, a symbolisé les notes à partir d'un hymne religieux et ça a donné Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, c'est les initiales, Do, c'est Ut. Donc, alors je prononce peut-être mal le latin, mais je peux vous dire des, je peux te dire des débuts. Donc la première phrase c'est ut queant laxis. Donc c'est en fait c'est un moyen mnémotechnique. Ceux qui savaient par cœur ce chant avaient mémorisé la hauteur. Donc ut queant laxis, ré comme resonare fibris, mi comme mira gestorum, etc. Donc c'était un aide-mémoire et c'est devenu une notation complète. Après, les hauteurs n'étaient pas fixées de son. Donc c'était une histoire d'intervalle entre les notes. Et on n'a pas des portées à cinq lignes, avec une clé sol et une clé de fa. C'est des sortes de clés d'ut. La clé d'ut, c'est un point qui indique le do, en fait, sur les lignes. Voilà.
Donc, on voit déjà que c'est, par rapport à maintenant, c'est très... ils ont dû beaucoup, beaucoup chercher, beaucoup, comme tu le dis, des mémotechniques dessus, et c'est...
ouais.
C'est surprenant.
Mais ça s'est imposé après, en tout cas, ce système de notation. Et ça s'est développé jusqu'à arriver à aujourd'hui.
on le voit bien, en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu pourrais... nous allons passer une musique qui s'appelle Préambulum Super D. Est-ce que tu pourrais nous en parler, en tout cas, de...
Mmh.
Plus
alors le préambulum, bien sûr. Alors le préambulum, il est joué, il me semble, au claviciterium. Donc là, on est en quelle année? On est dans les mêmes périodes que le premier morceau qu'on a entendu, donc 14e, 15e. Ça pouvait être joué à l'orgue, mais là, c'est joué au claviciterium. Donc, c'est un instrument à plectre avec des cordes qui sont à clavier, en fait. Alors, l'étymologie, c'est clavi pour clavier, citerium pour la cithare. La cithare, c'est l'ancienne harpe, en fait. Et c'est un instrument où les cordes, du coup, sont verticales. Donc on a le petit clavier devant soi, on a les cordes qui montent devant nous, et là elles sont en boyau, alors qu'habituellement on a des cordes en métal en fait. Et la corde en boyau, c'est un son plus doux, et on va entendre également le plectre, c'est comme un petit morceau d'ongle ou de plume en fait, à l'époque plutôt en plume d'oiseau, et... Ça pince la corde, en fait, comme un ongle le fait sur la guitare. Et on entend le bruit du plectre sur le bois dans l'enregistrement.
toujours sur Radio Campus 90.8. Nous sommes toujours avec notre guide musical Julien qui est ici. Nous avons, vous venez d'écouter du coup, j'arrive jamais à le dire, Préambule, Super D. Et c'était une belle transition du coup. Vous pouvez écouter comme quoi cet instrument est très magnifique en tout cas en termes de son et une belle sonorité. C'est une belle transition pour parler du coup sur un focus sur les instruments à ce moment-là. Nous avons parlé du coup de l'orgue et du clavecin. Et est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur Préambulum peut-être?
En fait, on entend très légèrement un luth en plus de, du clavicitérium dans cet enregistrement. Mais ça a un son très très léger, donc ça, c'est vraiment pas important. Enfin, on l'entend pas beaucoup. Mais donc, il y avait des instruments aussi comme le luth qui existaient. Et je peux, je peux rajouter aussi que ça vient d'une... En fait, cette œuvre semble tirée d'une collection privée qui s'appelle la tablature de Adam Hilleborg, qui date de 1448. Voilà, c'est très très précis, mais ça a été daté en fait, cette tablature. Donc ça, en fait, une tablature, c'est un moyen de décrire la... En fait, comment il y a des tablatures de guitare, et bien il existait des tablatures de clavier, qui sont des techniques où on n'écrit pas les notes, on écrit le rythme. Enfin, il y a plusieurs types de tablatures, mais on peut écrire le rythme avec le nom de la note par-dessus, écrit en lettres. Donc par exemple, A pour le La, C pour le Do, etc. Et on écrit la lettre. Enfin, ça, c'est une technique, mais il existe des tablatures plus techniques, mais qu'on ne pourra pas expliquer si facilement à la radio.
Oui, parce qu'on a, oublié de. En tout cas, on a oublié peut-être de le dire, mais en tout cas, les lettres, en tout cas, dans les partitions, en tout cas, quand on regarde sur un clavier, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si, en tout cas, je veux dire, il y a une autre façon aussi de le dire, comme tu dis, avec les lettres C, D, E, F, G, A, B. Si c'est ça, et du coup. C'est vrai qu'on ne pourra pas en dire beaucoup parce que je veux dire.
Il y a le système anglo-saxon notamment.
C'est ça, du coup. Et du coup, sur l'orgue et le clavecin.
Oui, alors, pour parler des. Alors, donc là, à cette époque, comme le premier enregistrement, un orgue d'église. On a entendu le clavicitérium, qui est un instrument comme une sorte d'ancêtre du clavecin, mais avec un clavier vertical. On a aussi le clavicymbalum à plectre, donc c'est le même genre d'instrument, mais cette fois-ci les cordes sont devant soi, avec un clavier, et par contre c'est des cordes métalliques. Donc, et c'est que des cordes pincées par le plectre. Et il existe aussi le clavicymbalum à marteau, qui a été redécouvert, reconstruit récemment en fait. On n'avait pas de modèle, on n'a que des iconographies, des gens qui le mentionnent, comment on le construit, mais on n'avait plus de modèle d'époque. Donc ça, on l'écoutera plus tard, je crois. donc l'organetto, qui est avec un l'orgue portatif. Et plus tard, on a le clavecin, le clavecin des modèles de la Renaissance. Il y a le clavecin italien, le clavecin français, franco-flamand en fait. On a des modèles, le virginal en Angleterre, ça c'est des clavecins. Puis les orgues évoluent beaucoup en fait dans les temps. Ils se développent en fait, notamment en tribune. Et en fait, il y a une époque où l'orgue, alors précédemment, l'orgue n'était pas utilisé. Là, on est au Moyen-Âge encore. Il y a une époque de l'ancien Moyen-Âge où l'orgue était plutôt utilisé dans la guise d'Orient. Et il est revenu en Occident, en fait. Ce n'était pas un instrument religieux au départ en Occident.
Et tu nous as parlé, du coup, de beaucoup d'instruments. Tout à l'heure, on a parlé aussi de Corinna Marti, qui était, du coup, compositrice. Est-ce que, du coup, lier avec l'orgue et le clavecin, est-ce que tu aurais des compositeurs phares, ou en tout cas célèbres, qui jouaient de ces instruments?
Alors, ça dépend de quelle époque on parle, bien sûr, mais... Là, pour les musiques, en fait, j'ai parlé que des instruments à clavier, bien sûr. On pourrait parler de la cornemuse et d'autres instruments du Moyen-Âge. Mais pour les claviers, en fait, on n'a pas tellement de... Au 14e, 15e, c'est le début des transcriptions pour le clavier. Auparavant, les gens ne jouaient pas du clavier en instrument soliste, en fait. Donc, il y a des transcriptions de chansons, par exemple, de Gilles Binchois, de Guillaume Dufay, qui sont des compositeurs de la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle. On a des transcriptions on a aussi les premières musiques vraiment écrites pour le clavier, par exemple des préludes, dans un manuscrit très important du XVe siècle qui s'appelle le Buxheimer Orgelbuch. Il est présenté sous le nom Codex Buxheim. Donc c'est un endroit en Allemagne, en fait. Et il y a 256 titres, enfin 256 musiques, transcrites pour le clavier, soit transcrites, soit écrites pour la première fois, vraiment pour le clavier. Et il y a aussi des redeuntes comme type de musique. Donc, et dans ce manuscrit, il y a les œuvres sacrées, profanes, et c'est écrit principalement à trois voix. Et elles ne sont pas commodes à jouer, par ailleurs, parce que les trois voix se croisent. Donc quand on joue au clavier, parfois la voix du dessus passe dessous.
Ok, oui, d'accord. J'ai essayé
donc
de
on essaie de. En fait, quand on joue, on doit, dans sa tête... Et ça, on joue en partition moderne, parce que si on joue sur les partitions anciennes, c'est encore une autre affaire.
Ah, j'essaye de mémoriser dans la tête, essayer aussi les auditeurs auditrices de voir ça. C'est essayer de vous mémoriser ça et en tout cas de vous l'imaginer. En tout cas, pour moi, c'est pas simple. tout à l'heure, tu as évoqué Guillaume Dufay sur. Oui. Comme quoi, en tout cas, sur. Tu as évoqué son nom, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Parce que du coup, on a une sélection du coup, en termes de,
oui.
de musique, sur, en tout cas de composition, ce qui est fait. Et du coup, on en a deux. Du coup, une qui est plus instrumentale et une avec la voix. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en...
Bien sûr. Guillaume Dufay, c'est quelqu'un qui est né en 1400 et qui est mort en 1474. Donc, on est vraiment dans tout le 15e siècle, là, une partie du 15e siècle. Il est formé à Cambrai. Il a servi un quart de siècle la Malatesta et la papauté en Italie, les ducs de Savoie aussi, et peut-être les ducs de Bourgogne. Donc il a signé 80 chansons françaises et italiennes. Il a écrit des motets de différents types. Pour célébrer l'inauguration de la cathédrale de Florence, par exemple. Il a fait aussi quelque chose qui s'appelle le banquet du faisan. Et puis 8 ou 9 messes, etc. Qui portent le titre de leur mélodie, notamment « C'est la face est pâle » et « L'homme armé ». Voilà, à peu près quelques éléments.
Sa biographie. Est-ce que tu voudrais faire un comparatif entre, du coup, les... la version voix et la version sans voix, peut-être ?
Oui, alors oui, on va pouvoir écouter la version qui est chantée. En fait, c'est à 3 et 4 voix. Donc, on trouve une version adaptée dans le Codex Buxheim, donc dans le Buxheimer Orgelbuch, ce qui veut dire le petit livre d'orgue de... Buxheimer Orgelbuch, le livre d'orgue de Buxheim, en fait. Dans la version clavier à trois voix, il y a deux versions qui sont mises l'une à la suite de l'autre dans l'enregistrement. Il se trouve que sur la musique de départ, on rajoute des notes. On fait ce qu'on appelle des diminutions. Donc on prend une valeur longue et on en fait des notes qui tournent autour de la note. C'est des techniques d'improvisation, mais là elles ont été écrites. Et la deuxième version, la deuxième partie de C'est la face est pâle pour clavier, les diminutions sont encore plus virtuoses que dans la première partie. C'est la musique est extrêmement virtuose et difficile à jouer, mais très bien réalisée. Et alors, elle est jouée sur le clavicymbalum à marteau, donc un instrument qui n'a pas d'étouffoir et qui fait des nuances, qui a été reconstruit vraiment récemment. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais voilà.
Oui, écoutons l'un des deux. sais pas comment.
Thank you.
Vous venez d'écouter du coup les deux comparatifs entre avec le chant et sans le chant de la musique qui s'appelle C'est la facce aipale si je prononce bien.
C'est la facce aipale, je crois que c'est du vieux français.
Est-ce que tu peux du coup nous en parler un peu sur ce comparatif?
Oui, j'avais déjà un petit peu évoqué, mais donc là on entend vraiment il y a plusieurs choses, disons, il y a la comparaison de la façon de la composition de départ à 3 et 4 voix devient une avec des variantes rapides de notes autour de la note principale du chant. Et il y a deux versions. Dans la version jouée au clavier cymbalum à marteau par David Catalunya, donc, qui est avec l'ensemble Tasto Solo, il y a deux versions dans ce qu'on a entendu au clavier cymbalum qui se suivent l'une l'autre. Ces deux versions qui sont copiées par deux copistes différents dans le Buxheimer Orgelbuch. La deuxième version a des diminutions plus rapides. On entend extrêmement bien que parfois ils jouent fort, parfois ils jouent pas fort. Et ça a changé la connaissance des claviers anciens de cette époque, du 15e siècle. Puisque avant, il a été le premier à jouer cet instrument là récemment. Alors je ne sais plus quand date le disque, mais il a joué ça sur France Musique aussi avec son propre instrument il y a quelques années. C'était la première fois que cet instrument passait à la radio en France et peut-être dans le monde, je crois.
Rien à rajouter dessus. C'est bon pour les.
Peut-être tu voulais parler de Tasto Solo.
Oui, pour dire sur le comparatif. Bon, peut-être. Je vais pas dire non plus les spécialistes ou en tout cas ceux qui sont plus ancrés dans la musique verront la différence que d'autres ne verront peut-être pas ou en tout cas c'est. C'est en fonction de chacun. Du coup, je vais pas.
Bien sûr.
Je vais pas aller plus dessus, mais oui. T'as parlé de termes. Oui, on a parlé de. T'as parlé de Tasto Solo. Est-ce que parce que du coup, on a aussi une musique qui s'appelle Re. Oh, allez, les noms aujourd'hui, c'est pas avec moi. Hein. Redeuntes. Redeuntes in re. Oui. In re bux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce terme du coup Tasto Solo?
Ouais, le terme Tasto Solo, en fait, c'est un terme qui est utilisé dans la musique italienne. Qui, dans la musique ancienne en général et beaucoup dans la musique baroque donc plus tardive, qui signifie que quand on joue la basse continue, c'est-à-dire qu'on joue une basse chiffrée, il y a la main gauche écrite en clé de fa, la main droite est improvisée avec des harmonies à partir des chiffrages. Et en fait, quand c'est Tasto Solo, eh ben, on joue pas la main droite avec les chiffrages, on joue que la note de basse sans harmonie, mais souvent c'est doublé par d'autres instruments. Instrument de basse, et voilà.
Ok, oui, parce que dans Tasto Solo, il y a comme le mot solo, je pense qu'on peut quand même se dire qu'il va se passer un truc seul, mais...
ouais, plus, mais je crois que c'est vraiment... Alors, faudrait se renseigner pourquoi eux-mêmes, ils se sont appelés comme ça, mais c'est pas que de la musique pour clavier. Après, c'est un ensemble fondé par quelqu'un qui s'appelle Guillermo Pérez, qui joue de l'organetto. Je suppose... Il joue pas que tout seul, mais quand il joue des solos d'organetto, en effet, il est seul. Donc peut-être c'est
oui,
un jeu là-dessus, les claviers seuls, je sais pas.
Oui, parce qu'après, je pense que c'est pas que applicable au clavier, comme on l'a dit. Je veux dire, c'est pas...
Ah bah si, normalement, Tasto Solo, c'est vraiment quelque chose lié au clavier. Alors en effet, il y a beaucoup de claviers dans ces enregistrements-là.
Ouais. Oui, pardon, non, j'ai compris à l'envers. Je me suis compris, mais j'ai compris à l'envers. Non. Je vais dire, c'était plus. Parce que je savais plus si c'était plus concentré que pour les claviers ou c'est. Mais c'est bon, ça a été bien dit.
C'est plus clair.
C'est plus clair. Et depuis tout. Bah, du coup, on se quittera du coup, avec cette musique du coup, Bon, la musique Tasto Solo, nous nous quittons avec ça là, mais je voulais parler sur les termes. Bon, on parlait un petit peu de termes techniques, mais est-ce qu'il y avait des gammes qu'on. En tout cas, on parlera pas forcément de. En tout cas, du Moyen-Âge baroque et Renaissance, mais en tout cas, est-ce qu'il y avait des gammes à éviter ou des gammes qu'on n'avait pas le droit de jouer ou,
Alors, il y a un intervalle connu qu'on évite, c'est le triton, qu'on appelle aussi Diabolus in Musica. Par exemple, l'intervalle Do Fa dièse. Voilà, absolument interdit. Ça, c'est au Moyen-Âge. Après, on n'est pas dans la gamme majeure et la gamme mineure qu'on a dans l'époque, à partir de l'époque baroque. Mais on est dans des... Parce que ça, c'est la gamme majeure et la gamme mineure, c'est la tonalité. On est dans la modalité. On a, par exemple, 8 modes grégoriens. Qui sont... Alors ça, c'est assez compliqué à expliquer, mais ces modes... c'est le mode de Ré, par exemple, le mode de Mi, le mode de Fa, qui ont aussi d'autres noms en nom grec. Qu'est-ce que je pourrais citer? Et alors, par exemple, en mode de Ré, on peut avoir le mode autante et le mode plagal. Alors, c'est assez compliqué. C'est lié à la note finale du récit. Et ça, c'est dans le chant grégorien. Mais c'est... Il y a eu plusieurs types de modalités, on les retrouve jusqu'au XXe siècle en fait, mais réadaptées à la sauce de chaque époque.
J'ai dit que ça allait être technique un petit peu, parce que du coup c'est des termes très... c'est des termes qui... Bah, je ne veux pas dire qu'il faut connaître, mais c'est des termes qui sont... si on n'a pas forcément... Si on n'est pas passé par des conservatoires, en tout cas, si on n'a pas étudié dessus, ça peut être compliqué.
C'est compliqué, en effet.
Et je sais plus c'est sur quel instrument et sur quelle époque, mais à un moment, je me suis informé et il parlait de... comme quoi, il n'y avait que la quinte, la quarte.
Oui, ah oui, oui, alors, oui. Là, j'ai parlé de la tavale.
Mais...
Oui, si, si.
Du coup, je sais pas si ça aussi...
On trouve d'ailleurs un très bon épisode... cette série sur le Moyen Âge
je l'ai plus.
Tu vois ce que je vois,
mais j'ai plus le nom actuellement.
Ça m'échappe et il y a un épisode sur la quinte en fait. Donc il y avait des intervalles qui étaient préférables. La sixte non. La tierce pas trop. La quinte oui.
La quinte, la quarte.
La quarte, l'unisson, l'octave, en fait les intervalles parfaits. Les autres étaient considérés comme moins bons, mais ça a évolué après peu à peu, hein. Même au cours du Moyen-Âge en fait. Ça s'est développé, mais au départ c'est assez limité en termes d'intervalles appréciés par l'auditeur et le musicien.
Mais en tout cas, j'ai pu voir que avec certains instruments ou autres, en tout cas, ils utilisaient que ces gammes-là. Ils utilisaient que ces combinaisons, la quarte, la quinte, la sixte. Je sais plus c'est sur quel instrument. En tout cas, je me suis renseigné dessus et j'étais surpris. Bah, je veux dire,
Oui, oui, bah ça, l'appréciation des intervalles a été variable au cours des temps, en fait, de l'histoire de la musique. Oui, oui.
Et Julien qui est notre guide musical sur cette émission, on a parlé énormément de musique, on a parlé de beaucoup de compositeurs, compositrices, et aujourd'hui, actuellement, tu es professeur de musique et du coup, tu enseignes. Et une question un peu pour toi sur ça, est-ce que l'apprentissage, ou en tout cas quand tu as commencé, comment tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Bien sûr,
ton apprentissage à toi dessus.
En fait, moi j'ai surtout étudié le piano au départ au Conservatoire de Grenoble. Disons que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais pianiste, j'étudiais le piano, le solfège, essentiellement voilà, au Conservatoire de Grenoble entre autres. Et puis, plus tard, j'ai découvert l'orgue, en fait. J'ai commencé à l'apprendre au conservatoire aussi. Un petit peu le clavecin, pour faire la pratique de la basse continue qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure. Donc, pour jouer de la musique baroque et accompagner d'autres instruments au clavecin. Et puis, j'ai étudié ça en Suisse. J'ai obtenu un diplôme d'État où je peux enseigner l'orgue en musique ancienne et le piano également. Plus tard, ça à Lyon. Et je joue parfois en concert, plutôt de la musique baroque, soit avec l'orgue et le clavecin, essentiellement avec ces instruments-là, en fait.
Donc un beau parcours jusqu'à présent, et du coup, tu as pu voir un petit peu... est-ce que ça a été compliqué, les débuts pour l'apprentissage
Oui, bon, c'est un long apprentissage, en fait, parce qu'il faut beaucoup d'années de conservatoire. Il y a beaucoup de théorie, de pratique. Il y a du track quand on joue en concert, comme pour tout le monde, comme tous les musiciens. Et puis, en plus, ça, j'ai fait ça en parallèle à des études scientifiques aussi. Donc voilà, j'ai pas tout mené de front en même temps forcément, mais parfois oui, et ça a été long, un long cheminement.
Du coup, où est le lien entre les études scientifiques et...
Bon, on peut dire que la musique, il y a un côté rationnel dans certaines choses, dans l'harmonie, dans les rapports entre les sons, le côté technique de l'orgue aussi... Il y a pas mal de scientifiques ou d'ingénieurs qui s'intéressent à l'orgue en tant qu'instrument complexe, par exemple. Donc peut-être une explication.
Oui, bah, c'est...
comme une autre.
Et nous allons... J'ai une dernière question avant que nous arrivions à la fin de cette émission sur... Du coup, sur un petit peu... Est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur tout ce qui a été dit, en tout cas sur... les personnes qui seraient fans de musique du Moyen-Âge, ou même des personnes qui veulent se lancer dans l'apprentissage pour apprendre.
Bah, avant tout, en écouter, en fait. Alors, sur les sites de diffusion en ligne, surtout sur YouTube, en fait, voir des vidéos avec des gens qui jouent de la musique du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus parlant. Et puis, en écouter encore mieux en concert, en live, en fait. L'idéal, mais par exemple bon, y a des ensembles qui sont spécialisés en Moyen-Âge comme l'ensemble Gilles Binchois c'est Dominique Vélard qui fait cet ensemble, il y a l'ensemble Organum de Marcel Pérez qui est plus ancien comme ensemble, il y a aussi Jordi Savall qui est célèbre pour la viole de Grom, qui a beaucoup joué tous les répertoires Moyen-Âge, Renaissance, Baroque, etc. Mais aussi, lui, il inclut aussi les musiques du bassin méditerranéen de cette époque. Et c'est vrai, voilà. Donc en fait, je pense que ça passe par l'écoute. Et la vidéo, c'est bien pour pouvoir comprendre, en fait.
Mais après, tu es professeur, on pourrait peut-être prendre des cours avec...
Ah, bah, bien sûr, oui.
Attends,
en effet. Et puis après, apprendre. Mais en fait, pour avoir envie d'apprendre, il faut connaître un peu.
Oui.
Enfin, les deux vont avec. Je peux faire découvrir des répertoires en proposant des partitions et en expliquant comment ça fonctionne, en effet, et en donnant des conseils techniques et musicaux avec des partitions. Et puis, l'idéal est de se former, en effet. Au-delà de l'écoute. L'écoute, c'est là. Disons que c'est susciter l'intérêt.
L'écoute, c'est la clé.
C'est la clé.
Et je fais pas un jeu de mots avec les clés de ré mi fa sol la si do. Nous arriverons à la fin de cette émission. Nous te remercions d'être venu sur les antennes de Radio Campus pour nous parler de cette culture, en tout cas de toute cette culture musicale.
Merci.
Merci à toi, franchement. C'était super cool.
Je vous ai convaincu sur cette musique-là.
Et bah, je le pense. Et bon, ça dépend des goûts de chacun, mais la pérophonie se finit. Nous remercions Ella qui était à la technique pour cette émission d'aujourd'hui. Nous nous quittons avec la musique Tasto Solo Reduentes in Re. C'était l'apérophonie sur Radio Campus 90.8.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.